bonjour et bienvenue dans ce podcast Journalisme de guerre, les coulisses. Je m'appelle Lucie Van Delen et je vous emmène à la rencontre de 6 journalistes. Tous travaillent pour des rédactions belges et sont partis en Ukraine. À Kiev, Lviv ou Boutcha, ils ont rendu la parole aux citoyens qui vivent la guerre. Mais aujourd'hui, c'est eux qui se dévoilent et révèlent l'arrière du décor.
C'est quoi la réalité d'un journaliste de guerre?
Comment ne pas se laisser envahir par la guerre?
Les journalistes sont-ils influencés?
Et l'info, ils la choisissent comment?
Dans les yeux.
Toujours en Ukraine, dans la ville d'Elviv, c'est là que se trouvent nos envoyés spéciaux RTL Info, Loïc Parmentier et Thomas de Cuper. Des barrages sont installés aux abords de la ville, des barrages qui filtrent les entrées et les sorties.
Oui, nous sommes sur un des très nombreux checkpoints, points de contrôle, quelque part autour d'Elviv, un point de contrôle qui s'organise. Il y a une vingtaine de personnes. Il y a des tas de sable pour monter des murs petit à petit sur le côté. Ils nous ont expliqué que c'était au cas où il y aurait des snipers.
Devant la caméra, c'est Loïc Parmentier, journaliste chez RTL. Derrière, Thomas de Cuper, journaliste caméraman pour le même média. Lorsque l'on regarde un reportage, on oublie qui tient la caméra. Et pourtant, à travers l'optique, lui aussi transmet l'information. Le duo s'est rendu 2 fois en Ukraine depuis le 24 février 2022, à Lviv et Kiev. Autour d'un café, Thomas de Cuper raconte le rôle de l'image pour l'information et l'influence de celle-ci sur les personnes qu'il rencontre dans un pays en guerre, mais surtout, l'impact sur lui et sur son métier.
L'avantage d'être caméraman dans ce genre de situation-là, c'est qu'on a le filtre de la caméra. C'est-à-dire que moi, finalement, l'Ukraine en guerre, je l'ai vécu à travers l'œilleton de ma caméra. Donc presque comme si je regardais la télévision, quasiment. Et ça fait un filtre vraiment très fort, parce que voilà, moi j'ai l'œil dans mon œilleton de caméra, je suis concentré sur mon image, sur mon cadre, sur mon exposition, sur plein de choses, sur ce que les personnes disent aussi, que je dois retenir pour pouvoir après filmer mes plans de coupe, pour pouvoir construire vraiment un reportage. Et donc, c'est cet avantage-là. Et c'est vraiment le soir, en rentrant à l'hôtel avec mes collègues, que là, il y a tout qui sort finalement, qu'on se dit, ou en rentrant dans la voiture, après en quittant un endroit, que vraiment là, on réalise qu'on vient de vivre finalement. Et là, ce qui est très important, c'est d'en discuter, tout simplement, entre nous, comment est-ce que tu l'as ressenti, comment moi je l'ai ressenti, est-ce que ça t'a touché, est-ce que c'était crédible, est-ce que c'était... Enfin, voilà, donc il y a tout ce côté-là. Mais je pense que vraiment, c'est plus facile en tant que caméraman, parce qu'on a vraiment ce filtre, cette espèce de mur de l'image, qui fait qu'on reste témoin de ce qui se passe, on n'y est pas vraiment impliqué. Et par contre, au moment où on pose la caméra et où on va aider quelqu'un parce que tout d'un coup quelqu'un est en train d'essayer de pousser une brouette ou de tirer une brouette et qu'elle n'y arrive pas et tout ça, bah on pose la caméra, on va l'aider, et c'est vraiment à ce moment-là qu'on réalise où on est, ce qu'on fait, et que ça pourrait nous arriver à nous aussi finalement.
Ce filtre lui permet de ne pas sombrer dans la déprime, de garder de la distance, de rester prudent et vigilant face aux récits de vie bouleversants. Pour Thomas de Cuper, il faut garder en tête que les Ukrainiens ont tous un proche, un ami, un collègue, touché tragiquement par la guerre. Tout est donc à nuancer.
Avait des messages à faire placer et on leur laisse passer les messages face à la caméra. Quand on est en train de filmer en terrain et que les gars prend à partie la caméra, nous dit viens voir, regarde, c'est ici que mon fils, quand j'ai retrouvé mon fils enterré, ou que j'ai retrouvé mon fils avec une balle dans la tête, avec les mains liées, ou que j'ai machin, à cause de ces pourritures de Russes, de machin, sur le moment même, on le filme. Maintenant, c'est au montage où on arrive à faire le filtre, d'essayer de rester de nouveau le plus neutre possible. Et de nouveau, notre rôle à nous, c'est pas du tout de faire de la propagande. Pas du tout. Et c'est effectivement compliqué d'être... On est toujours un peu sur le fil. Y a la barrière de la langue. Quand on est sur place, recouper ces informations n'est pas si évident que ça. Parce que le mec nous dit, regardez, c'est ici que mon fils a été tué d'une balle dans la tête par des Russes. Je suis pas expert balistique pour savoir que c'est une arme russe qui a tué son fils. Que, effectivement, est-ce qu'il avait bien les mains liées, Donc ça devient très compliqué, et donc finalement on préfère être plus prudent en fonction de ce qu'on montre que de montrer des fausses informations, ça c'est certain.
Pourtant, il en faut des images fortes, pour s'identifier, pour conscientiser, pour raconter la guerre simplement à ceux qui ne l'ont pas vécu. Tout montrer n'est pas possible, il faut choisir, mais là-bas en Ukraine, les choix s'imposent au feeling.
l'image est tellement forte qu'elle parle d'elle-même. Tout, on a envie de tout filmer, en fait. Parce que tout est tellement extraordinaire dans le sens hors de l'ordinaire qu'on a les yeux, la tête qui tourne dans tous les sens et qu'on a envie de tout filmer, de tout montrer. Je pense que ça s'impose à soi-même aussi. C'est en fonction de là où on est, de là où on se trouve. En fonction des discussions avec les gens, en fait, tout part d'une discussion avec les gens. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Comment ça se passe? Où est-ce que ça se passe? Et les gens, très vite... Quand on arrive dans des pays comme ça, les gens sont heureux de nous voir parce qu'on transmet leur histoire. Et très vite, vont nous dire, venez voir ma maison. Je pense à, par exemple, c'est pendant le deuxième voyage où on a été jusque Kiev, donc les Russes avaient... avait quitté Kiev et donc on a été, je pense que c'était 2 semaines après les images atroces de cadavres dans la rue à Boutcha. C'était quelque chose comme 2 semaines après. Et là on se dirige vers Boutcha justement, on rentre dans Kiev par cette même route qui est où 2 semaines auparavant les cadavres jonchaient le sol. Et avant d'arriver à Boutcha, on passe par une autre ville qui s'appelle Borodienka. Et là, c'est vraiment, on arrive sur la place centrale de la petite ville, et c'est des immeubles entiers tout autour qui sont éventrés, calcinés. Et à un moment, on se promène un peu parmi là. Là, on avait un deuxième caméraman avec nous, Maxime Simon, qui lui était en train de faire des images de drone tout autour. Et moi, avec Loïc, je m'avance un peu et on se retrouve, on marche un peu à l'arrière de ces immeubles calcinés. Et là, c'est des montagnes de gravats, toutes des maisons qui ont été complètement détruites et dont notamment une maison détruite parce qu'un des immeubles s'est cassé la figure dessus, quoi. Et là, on voit au milieu de ces gravats une petite dame en train de fouiller un peu les gravats et tout ça. Et on va la retrouver. Et là, pareil, c'est une image extrêmement forte de voir cette petite dame en train de ramasser, et je me souviens, elle ramassait des jouets d'enfants au milieu des gravats de sa maison et qui nous explique que, deux semaines auparavant, les Russes ont attaqué, les immeubles juste derrière chez elle se sont fait bombarder et il y a la moitié d'un immeuble qui est tombé sur sa maison. Heureusement, elle n'était pas dedans. Et elle était en train de ramasser les jeux pour ses petits-enfants, en fait. C'était les jouets de ses petits-enfants qui venaient de temps en temps dormir chez elle. Et c'est la seule chose qui l'intéressait, c'était de ramasser les jouets pour ses petits-enfants. Ses vêtements, ça ne l'intéressait pas, ses souvenirs, ça ne l'intéressait pas, c'était vraiment la seule chose. Et voilà, quand on se retrouve face à une image pareille, je veux dire, voilà, on sort la caméra, on filme, et ça vient tout seul, finalement. Mmh. Et voilà, c'est des images très fortes.
Et le choix s'impose
comme ça. Voilà, le choix s'impose, ouais. Exactement. Le choix s'impose vraiment comme ça, par les rencontres, par les opportunités, entre guillemets.
Et puis finalement, rien n'est plus important que les humains, les vies, les anecdotes derrière la guerre.
Voilà, les communications de Zelensky, on les a en agence de presse, on sait les traiter depuis Bruxelles et c'est ce qu'on faisait en général. Tout ce qui est vraiment institutionnel, tout ça est à l'heure actuelle, à l'heure des médias actuels, tout ça arrive naturellement dans les rédactions. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher, c'est vraiment très simple à traiter, quoi. De partout dans le monde, on peut traiter une actualité internationale. Ce qui manque souvent, c'est les témoignages des gens. Et finalement, qui est-ce qui regarde l'information? Qui est-ce qui est le destinataire final de l'information? C'est des gens. Et qu'est-ce qui parle plus aux gens que des témoignages d'autres gens? Rien, je pense. Autant une ONG, un responsable d'ONG peut parler, ça peut paraître très grave. Un président d'un pays peut parler, ça peut paraître très important. Mais il n'y a rien qui est plus impliquant qu'un autre être humain qui parle à un être humain. C'est ça la base. Et parce qu'on s'identifie aux gens, et parce que voilà, on ne peut pas s'empêcher de se dire, je suis sûr que cette histoire de la grand-mère à Borodienka qui cherchait ses jouets d'enfant, en fait, toutes les grand-mères de Belgique s'y sont vues en cette dame. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment faire rendre compte aux gens ce que c'est l'horreur d'une guerre. Voilà.
Mais en Ukraine, les images sont des armes. Les journalistes sont observés et contrôlés. On ne filme pas tout, car l'ennemi russe les regarde aussi.
Même si on était de la presse, ils étaient hyper méfiants au niveau de l'espionnage. Vraiment, c'était ce qui les inquiétait le plus. Et j'ai d'ailleurs une anecdote assez marquante à ce niveau-là. Un jour, on allait faire un sujet à la gare de Lviv pour filmer les, euh, les flots de réfugiés qui arrivaient en train depuis toute l'Ukraine, et surtout de l'Est, et de la ville de Kharkiv aussi. Et on marchait, on s'était garé un peu à l'extérieur, parce que devant la gare, c'était très compliqué. Il y avait beaucoup de flots de voitures qui s'en allaient, qui arrivaient, des bus, des... Enfin, c'était vraiment très compliqué. Donc on se gare de l'autre côté de la gare, et on doit marcher une vingtaine de minutes pour arriver devant la gare. Et là, on est juste Loïc, la fixeuse, et moi. Et Loïc et la fixeuse marchent devant en discutant. Et moi, je marche un peu derrière. Et puis, tout d'un coup, je trouve que c'est sympa. Il y a des graffitis. On passe au-dessus des rails. Il y a des graffitis. C'est assez graphique. Et donc, bêtement, comme un espèce de touriste, je sors mon téléphone et je commence à prendre des photos de ces graffitis, tout ça. Et à un moment, sorti de nulle part, trois hommes armés m'ont attrapé par derrière, m'ont attrapé mon sac à dos, m'ont plaqué contre une rambarde en me demandant papier. Je leur ai sorti mon passeport, je leur ai sorti mon accréditation militaire, et là ils se sont calmés. En fait, ils ont cru que j'étais un espion russe, parce que voilà, ils ont cru que j'étais un espion russe et que j'étais en train de prendre des photos de la gare pour les renseignements russes. Et donc, j'ai été braqué avec la Kalachnikov, voilà, les gars se sont un peu, étaient vraiment très tendus. J'ai juste eu l'occasion d'appeler Loïc, je fais Loïc, le gars m'a dit tais-toi. Heureusement, Loïc m'a entendu et est arrivé en courant avec la fixeuse qui a pu faire la traduction et expliquer qu'on était des journalistes belges. Mais c'est pour illustrer le fait qu'ils étaient vraiment, c'était le plus marquant finalement, c'était qu'ils étaient hyper tendus au niveau de l'espionnage. Quoi. C'était vraiment leur plus grand stress à tous ces soldats.
Pourtant, ce n'est pas l'insécurité qui rythme le travail de Thomas de Kuyper en Ukraine. Son travail ressemble à s'y méprendre à celui qu'il fait en Belgique, à quelques exceptions près.
En tant que caméraman, le boulot est le même, faire de l'image et raconter une histoire par l'image. Donc, je pense que c'est plus humainement que ça change quelque chose en soi. Voilà, que dire, quelle chance on a d'être en Belgique, dans un pays en paix, mes enfants sont en sécurité. On se fait pas bombarder, on n'est pas... mais en tant que professionnellement, non, je pense que c'est rigolo parce que souvent on s'est déjà dit souvent avec Loïc qu'on se sent parfois plus en insécurité en Belgique à faire notre boulot en Belgique qu'en Ukraine. Parce que la presse est un peu mal vue pour l'instant. J'ai couvert des manifestations de gilets jaunes, par exemple à Bruxelles. Je me suis senti bien plus en insécurité dans des manifestations de gilets jaunes ou les manifestations anti-vax à la fin de la période de Covid qu'en Ukraine, finalement. Et d'ailleurs, je me suis fait agresser dans ces manifestations-là, alors que je ne me suis jamais fait agresser en Ukraine.
Sauf par
la garde nationale, oui.
Aujourd'hui encore, ce paradoxe marque le journaliste caméraman et interpelle l'ensemble de la rédaction de RTL. La sécurité des journalistes est une question qui rythme plus que jamais la profession, ici en Belgique ou là-bas, en Ukraine. Peut-on tout préparer, tout anticiper en terrain de guerre? C'est ce que Aurélie Didier, ex-responsable éditoriale au service international de la RTBF, vous explique dans le prochain épisode de Journalisme de guerre, Les coulisses. Un projet réalisé dans le cadre d'un mémoire en journalisme à l'école de journalisme de Louvain-la-Neuve.